bonjour.
Bonjour, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga veut créer des camps fédéraux pour les réfugiés afin d'accélérer les procédures d'asile. Révélation du TAG Zansager ce matin. Le TAGI s'est procuré un rapport confidentiel où la conseillère fédérale socialiste expose trois scénarios pour donner plus de responsabilité à la Confédération en matière d'asile. Explication dans un instant de Vincent Bourque. Éviter de nouvelles inondations comme celle de Lully en 2002, c'est l'objectif poursuivi par le canton de Genève qui élabore une cartographie des dangers liés aux crues. Mesure présentée ce matin par le service cantonal de l'écologie de l'eau, nous dira Séverine Ambrusse, et nous recevrons le chef du secteur dynamique de l'eau, Étienne Montbaron. Immersion de la radio suisse romande cette semaine à Aulnay. L'opération Génie suisse de la RSR est lancée en vue des élections fédérales d'octobre prochain. Trois journalistes se trouvent dans une localité romande depuis lundi dernier. Objectif, comprendre ce qui, dans le quotidien, influence le choix politique des citoyens. Cette semaine, direction Aulnay, cité nouvelle dans le canton de Genève. Nous nous demanderons aujourd'hui avec Laurence Jobin comment s'y prendre pour décrypter un objet de votation. Vous l'entendrez, ce n'est pas simple pour certains. Nous parlerons de recomposition familiale dans ce journal avec la psychologue et psychiatre Catherine Audibert qui évoquera ce thème ce soir à la Fondation de Nantes. Catherine Audibert vient de publier Oedipe et Narcisse en famille recomposée aux éditions Payot. Elle sera notre invitée dans une vingtaine de minutes. Beau et chaud aujourd'hui en Suisse romande, 26 degrés en pleine, le même type de temps pour demain. Dès mercredi, le ciel se couvrira partiellement. La météo de Carole Dubouy dans une demi-heure. La Confédération devrait jouer un rôle plus important dans la gestion de la politique d'asile en Suisse. C'est dans ce sens que va un rapport du département fédéral de justice et police débattu en ce moment au sein de la commission des institutions politiques du Conseil des États, Vincent Bourquin.
Oui, ce rapport dévoilé ce matin par le Tagesanzeiger et dont le contenu nous a été confirmé tout à l'heure par plusieurs sénateurs étudie trois options pour améliorer le fonctionnement de la procédure d'asile en Suisse. La première consisterait à retirer toutes les compétences au canton et donc la politique d'asile serait gérée uniquement par la Confédération, y compris l'exécution des renvois. Cette proposition a toutefois peu de chances d'être acceptée en raison notamment des coûts très importants qu'elle engendrerait. La deuxième solution qui a semblé ce matin satisfaire la majorité de la Commission des États consisterait à donner à la Confédération la responsabilité de toute la procédure ordinaire, c'est-à-dire que les requérants ne seraient plus répartis entre les cantons dans l'attente de savoir s'ils obtiennent ou non le statut de réfugié, mais dans des centres nationaux gérés par la Confédération, comme les centres actuels d'enregistrement tels Valorbe en Suisse romande. Par contre, les cantons resteraient responsables des renvois. Quant à la troisième option, on pourrait l'appeler statu quo plus, les prérogatives entre canton et confédération demeuraient plus ou moins les mêmes qu'aujourd'hui, mais les procédures seraient accélérées afin d'éviter que des personnes restent en Suisse pendant des mois, voire des années, avant de connaître leur sort définitif. En fait, cette accélération des procédures, souhaitée par tous les partis politiques, pourrait être mise en place très rapidement, selon plusieurs sénateurs, et déboucher ensuite sur cette nouvelle répartition des compétences entre canton et confédération, qui, elle, ne pourra pas être effective avant 5 ou 6 ans.
Vincent Bourquin en direct du Palais fédéral. On va prendre des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
À Fribourg, la route des Arsenaux est interdite à la circulation entre le passage du Cardinal et la route de l'Industrie en raison d'une intervention policière. La fin de cette opération est prévue vers 13h30. Le canton de Genève veut éviter de nouvelles inondations catastrophiques comme celle du village de Lully en 2002 dans le canton. C'est dans ce but que le canton de Genève élabore une cartographie des dangers liés aux crues. Cette mesure, présentée ce matin par le service cantonal de l'écologie de l'eau, doit permettre d'éviter à l'avenir que l'on bâtisse sur des terres inondables. Séverine Ambrusse.
Oui, les inondations de Lully, on s'en souvient, avaient causé d'importants dégâts. En Suisse, ces phénomènes représentent un coût de plus de 360 millions de francs par année. Et Genève, avec ses nombreux cours d'eau et sa forte densité, n'est pas à l'abri. Depuis 2002, les autorités genevoises ont travaillé à la renaturalisation des cours d'eau ou à la construction de digues. Des mesures nécessaires, mais pas suffisantes. Il s'agit aujourd'hui d'agir en amont. La cartographie des zones à risque devrait permettre de mieux intégrer ces dangers dans l'aménagement du territoire. Elle se fait en deux temps. D'abord, une carte indicative des dangers sur tout le canton. Carte déjà disponible et consultable sur le site de l'État de Genève. Une carte des dangers cours d'eau par cours d'eau devrait-elle être disponible pour la fin de l'année. Elle indiquera le classement des dangers du plus élevé au plus faible selon les zones et déterminera le cas échéant des interdictions ou des réglementations précises en matière de construction. Une mesure de prévention donc, alors qu'à l'heure actuelle, à Genève comme dans le reste de la Suisse, c'est plutôt la sécheresse qui menace les cours d'eau.
Séverine Ambrus en direct de Genève à vos côtés. Étienne Montbaron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du secteur dynamique de l'eau au service de l'écologie de l'eau du canton de Genève. On se souvient des inondations de Lully en 2002, on en avait parlé, une quarantaine de maisons inondées, des personnes dont la vie avait été menacée. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'avec les mesures prises par le canton de Genève, une telle situation a très peu de chances de se reproduire ?
Alors effectivement, sur la zone de Lully, une telle situation est très peu probable de se reproduire.
Donc peu de chance, donc ça veut dire qu'on peut garantir qu'il y a des endroits maintenant totalement sécurisés, ça qu'on peut dire aujourd'hui ?
Alors totalement, c'est très difficile, les phénomènes naturels, on les maîtrise pas, on les subit, et on peut prendre toutes les mesures nécessaires pour essayer de réduire au maximum leurs conséquences. Par contre, on ne peut pas être totalement sûr que demain n'arrivera pas un événement totalement imprévisible.
Grâce à ce travail de cartographie, on doit savoir à peu près maintenant, en tout cas, quelle partie du canton peut être menacée par les dangers naturels. Est-ce qu'il y a des zones plus exposées que d'autres que vous surveillez particulièrement dans le canton de Genève, par exemple ?
Alors tout à fait, les zones les plus emblématiques, les plus soumises à des dangers ont déjà été identifiées et protégées, notamment grâce aux différentes mesures qui ont pu être prises. Il y en a d'autres, à proximité immédiate des cours d'eau, dans des zones que nous avons identifiées, que nous avons à l'œil et que nous surveillons. Nous voulons absolument éviter de construire dans des zones pareilles où l'on exposerait les biens et les personnes à des dégâts importants.
Et surtout qu'à Lully, il y avait déjà eu plusieurs crues importantes, ça c'était dans les années 70, un danger donc connu dans la zone. Est-ce qu'une nouvelle cartographie des dangers naturels permettrait de contraindre le législatif de mettre une loi pour ne pas construire dans les zones à risque ? Est-ce que c'est aussi le souhait de votre service ?
Tout à fait, mais cette législation, elle existe. Il faut voir que Lully est un cas où on a construit alors que cette législation n'existait pas. La connaissance des dangers n'était pas actuelle à l'époque. Maintenant, nous avons les outils qui permettent non seulement de connaître ces dangers, mais en plus de prendre les mesures de planification du territoire ou de protection qui en découlent.
Et on sait qu'il y a un problème de logement à Genève, donc on pourrait dire empêcher de construire à cet endroit-là, c'est dangereux. Ça poserait une double problématique, la sécurité et le manque de logement en même temps, on devrait faire un choix finalement.
Oui, mais je crois que les zones de danger liées aux crues pour lesquelles on ne peut pas construire, ça représente une très petite partie du territoire. Alors, densifier, déclasser, il faudra peut-être le faire, probablement. C'est pas à moi de décider ce genre de choses. Par contre, si l'on le fait, il y a certaines zones du territoire où il faut absolument éviter de le faire pour des questions d'inondation. La proximité des cours d'eau n'est pas un endroit où on peut résoudre la crise du logement à Genève.
Étienne Montbaron, une dernière question. Ironie du sort, on va parler de crue, mais là on est en pleine sécheresse, hein, notamment sur l'Arve. C'est une situation qui vous inquiète, parce que là c'est vrai qu'on tire quand même pas mal la sonnette d'alarme dans toute la Suisse romande notamment.
Effectivement, c'est une situation assez paradoxale. La situation est très particulière. On vit une période très sèche. On se dirige, si on continue, vers des niveaux inégalés depuis de nombreuses années. Ça pose un problème. Nous suivons la situation de manière très proche. Et probablement que dans les jours ou les semaines qui viennent, des décisions devront être prises pour protéger les cours d'eau au mieux.
Et on les suivra. Merci Étienne Montbaron, chef du secteur dynamique de l'eau au service de l'écologie de l'eau du canton de Genève, invité par Mathieu Cuplin. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
28 mois de prison, une peine complémentaire à celle de 5 ans et 8 mois qu'il purge actuellement. C'est ce qu'a réclamé ce matin le ministère public à l'encontre du chanvrier Bernard Rapa. Ce dernier comparaît aujourd'hui devant le tribunal du district de Martigny pour de nombreux chefs d'accusation, dont la violation grave de la loi sur les stupéfiants ou encore le blanchiment. Son avocat a plaidé pour la non-aggravation de la première peine.
Radio Suisse romande, en immersion.
Et oui, génie suisse en immersion, c'est l'opération spéciale de la RSR en vue des élections fédérales d'octobre prochain. Depuis ce matin, vous pouvez entendre les reportages de nos trois journalistes immergés à Aunay, Cité Nouvelle, dans le canton de Genève. Ils suivent depuis une semaine 6 habitants pour tenter de comprendre notamment leurs préoccupations quotidiennes. Laurence Jobin, vous êtes en direct de la maison aunaisienne. Vous mettez en exergue dans ce journal un élément que vous avez pu observer, c'est-à-dire que les difficultés de trois d'entre des personnes que vous avez suivies, leurs difficultés face à l'acte de voter.
Oui, à commencer par celle de Catherine Martinez, 55 ans, en recherche d'emploi. Des difficultés révélées lors d'une rencontre impromptue devant un grand magasin.
Alors voilà.
Je présente Françoise.
Oui.
Donc, c'est les Verts.
C'est bien ça. Hein.
Alors, il milite pour les Verts. Et puis,
vous êtes en train de faire quoi, là, ce matin?
Alors, on milite pour les prochaines votations du 15 mai, pour Charpine-Charreton et pour la mobilité douce.
Vous êtes au courant de ces votations du 15 mai?
Ouais, j'ai reçu les papiers, je crois, hier ou avant-hier. On ne sait pas forcément ce qu'il faut voter, et puis, mais je veux quand même demander un peu plus à Françoise, comme ça, au moins, on ne vote pas des conneries. Parce qu'on a tendance, les gens ont tendance à voter n'importe quoi sans réfléchir.
Ah bah, dans le fond, vous avez assez envie de voter. C'est juste que des fois, c'est compliqué.
C'est compliqué. C'est vrai que des fois, comme c'est tourné, j'arrive pas à répondre. Je sais pas ce qu'il faut répondre parce que suivant ce qu'on répond, on risque de dire quelque chose de faux. Hein.
Donc pas évident, en effet, pour Catherine Martinez de voter. On l'entend bien. Qu'en est-il pour les autres, Laurence Jobin?
Alors, pas simple non plus pour Sabrina Rossi, 41 ans, secrétaire à la commune d'Aunay, de saisir les enjeux des votations, de savoir comment répondre à une initiative ou un référendum, mais elle tient à donner son avis à chaque votation.
Oui, parce que mon mari, il tient et il a parfaitement raison. Moi, je serais du style, oh, j'ai pas eu le temps de regarder, de me pencher sur les sujets de votation, mais alors lui, il prend vraiment le temps. C'est vrai que si je suis sincère, si j'avais pas mon mari, certainement je ferais partie des abstentionnistes. Et en même temps, quand je me mets dans son regard, il a parfaitement raison. Il faut qu'on aille voter, là, c'est clair.
Pour finir, à 22 ans, Céline Pache, étudiante, prend également à cœur de s'exprimer, surtout pour des enjeux locaux. Mais comment s'informe-t-elle?
Alors, en premier lieu, ouais, j'essaye déjà de lire un peu le fascicule. Et j'essaie déjà un peu de m'informer moi-même. Et après, on engage un peu la conversation avec les copains, on en discute, même avec mes parents. J'essaie de voir un peu ce qu'ils en pensent. Et puis sinon, des fois, on voit à la télé aussi, ils en parlent un peu. Et je vais essayer de m'informer déjà à partir de maintenant le plus possible quand on parle des élections fédérales. Mais pour le moment, vu que c'est la première fois que je vais voter, j'ai pas su encore vraiment les enjeux qu'il y avait, donc faudrait que je m'intéresse un peu plus là-dessus.
Alors voilà, à observer nos témoins onésiens, les droits civiques représentent bien une chance, mais la complexité des enjeux de votation se pose face à eux comme un réel obstacle.
Laurence Jobin en direct de la maison onésienne, un sujet réalisé avec la complicité d'Esther Coco, génie suisse, opération spéciale de la RSR dans trois villes de Suisse romande, Aunay, Cité Nouvelle, ça c'est pour cette semaine, Le Noirmont la semaine prochaine, et puis pour finir, Montais, à suivre aussi en ligne sur geniesuisse.rsr.ch. Le commerce équitable se porte toujours extrêmement bien en Suisse. Max Avelar a présenté son chiffre d'affaires 2010 ce matin à Zurich. Il a progressé de près de 11% pour atteindre plus de 300 millions de francs. Son meilleur résultat d'ailleurs depuis 3 ans. Une progression qui est supérieure à la croissance moyenne enregistrée dans le commerce de détail et la restauration. La croissance a été particulièrement marquée pour le café, le riz, le cacao. En revanche, Max Avelar note un léger recul de ses ventes de bananes et de fleurs. Delphine Chandre.
Bananes et fleurs, les deux produits pourtant phares de l'assortiment, ont eu un peu moins de succès l'année dernière. Une baisse d'environ 4% qui s'explique pour les bananes par le choix toujours plus grand de fruits exotiques dans les grandes surfaces et pour les fleurs par le nuage de cendres qui a perturbé au printemps 2010 le trafic aérien et donc leur acheminement, ainsi que la Saint-Valentin qui est tombée malheureusement un dimanche. Malgré tout, les Suisses restent des consommateurs très soucieux de commerce équitable. Martine Ronner, directeur de la fondation Max Avelar Suisse.
Les Suisses, ils restent les champions du monde dans le commerce équitable. Nous avons des commerçants de détail comme par exemple Coop, Migros et autres qui sont très actifs, qui eux-mêmes sont des coopératifs et qui ont vraiment internalisé le conseil de la durabilité dans leurs affaires.
Aujourd'hui, les produits issus du commerce équitable se situent à mi-chemin entre le secteur de niche et la grande consommation. Un des objectifs du label Max Havelaar est donc de conquérir à l'avenir les grandes marques de chocolat, les capsules de café et pourquoi pas les chaînes de vêtements.
Neuchâtel réforme son système d'orientation. Un nouvel office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle va voir le jour. L'accent sera mis sur les liens avec le monde de l'économie et de l'entreprise. La réorganisation a été adoptée par le Grand Conseil l'automne passé et entrera en vigueur le 1er août prochain. Virginie Pilot a demandé à Philippe Negui, le chef du département de l'éducation, de la culture et des sports, si ce changement correspondait à sa vision libérale radicale de la formation. Voici sa réponse.
C'est pas une vision libérale radicale. Si vous voulez, ma vision en tant que chef de département, le seul souci, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement de manière générale ou de l'éducation. Et il faut travailler pour les élèves. Et là, la couleur politique, moi, elle m'est égale. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les jeunes se cherchent souvent. Il y a beaucoup d'échecs aussi dans les écoles à plein temps, même dans les apprentissages. Je pense qu'aujourd'hui, on défend mieux l'orientation peut-être que hier, parce qu'on dit l'orientation, elle est au centre de l'éducation. Et c'est ce message que je veux faire passer au niveau politique. L'orientation professionnelle est fondamentale et toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur ont un rôle immense à jouer. Et si on peut aussi mieux faire connaître ces deux mondes, les faire se rapprocher, le monde économique et le monde scolaire, le monde de l'orientation, eh bien, je trouve que c'est encore mieux. Et c'est dans ce sens que va aussi la politique de l'éducation du canton de Neuchâtel.
Quel avenir énergétique voulons-nous? C'est une indication à cette question que les Bernois donneront ce dimanche, car ils voteront leur loi sur l'énergie. Elle contient deux pierres d'achoppement combattues par la droite, un certificat énergétique obligatoire pour les bâtiments construits avant 1990 et une taxe sur la consommation d'électricité. Et l'une des inconnues de ce scrutin de dimanche, c'est l'effet Fukushima. Muriel Balaman.
La votation sur l'énergie dans le canton de Berne, ce sera à la fois une indication sur le type d'avenir énergétique que veut la Suisse et un avant-goût du comportement que vont adopter les votants aux élections fédérales d'octobre. La conseillère d'État bernoise en charge de l'énergie, Barbara Egger-Jenzer, veut favoriser l'efficacité énergétique et promouvoir le renouvelable.
Avec la loi, réviser le canton de Berne prépare la sortie du nucléaire, prépare la sortie du pétrole et du gaz au profit des économies d'énergie. C'est un petit premier pas. Et pour moi, c'est nécessaire de faire ce pas maintenant.
Mais ce petit pas de Barbara Egger-Jenzer, c'est un pas dans l'eau, car elle est combattue. Le premier point de discorde, c'est le certificat énergétique obligatoire pour les bâtiments construits avant 1990. Berne serait le premier canton à l'introduire, puisqu'à Neuchâtel, la loi qui le prévoyait a été rejetée. Dans le canton de Berne, le caractère obligatoire de ce certificat, qui coûte entre 500 et 800 francs, est combattu, notamment par l'UDC bernoise. Son président, Rudolf Yoder.
Nous ne sommes pas d'accord que 130 000 propriétaires des bâtiments ont le devoir de créer un tel certificat. C'est absolument superflu.
Pour rénover un bâtiment, il faut faire un constat quand même.
Oui, mais d'une manière très directe, avec un entrepreneur qui peut me expliquer quoi est nécessaire ou pas nécessaire.
Un avis que ne partage pas Ricardo Forer, qui établit des certificats énergétiques. Pour lui, un tel document permet de hiérarchiser les travaux d'assainissement afin d'éviter des dépenses inutiles. Et il y a un autre avantage, un bâtiment qui a une bonne étiquette énergétique prend de la valeur.
On sait où la maison elle se trouve, dans quelle qualité elle est. C'est certainement un plus value parce qu'on a augmenté la valeur de la maison et puis je pense que ce sera aussi beaucoup plus facile à la vendre.
Autre point de discorde, la taxe incitative sur l'électricité, elle servirait à financer des projets d'assainissement. Un ménage paierait entre 2 et 5 francs supplémentaires par mois. La droite dénonce une taxe supplémentaire, mais pour le Conseil d'État, elle est primordiale. Ces caisses ne lui permettent pas de subventionner l'assainissement des bâtiments.
Votation donc ce dimanche dans le canton de Berne.
Le 12-30, Natacha Van Kutsem.
Et on part pour la Corée du Sud. Dans ce pays colonisé au début du XXe siècle par le Japon, les blessures de la période coloniale ne sont toujours pas refermées. Tous les mercredis, les anciennes femmes de réconfort, ces victimes d'exploitation sexuelle de la part de l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien ces femmes manifestent devant l'ambassade du Japon. Aujourd'hui très âgées, elles réclament des excuses officielles et des indemnités. Reportage à Séoul de Frédéric Orjadias.
Le gouvernement japonais doit cesser de falsifier l'histoire. Nous sommes devant l'ambassade du Japon à Séoul. Comme tous les mercredis depuis près de 20 ans, les anciennes femmes de réconfort manifestent. Ce sont les survivantes de ces centaines de milliers de femmes, dont la majorité étaient coréennes ou chinoises, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été obligées de se prostituer dans les maisons closes de l'armée japonaise. Han Son-mi est une jeune militante au sein du comité coréen de soutien à ses victimes.
Notre comité de soutien demande au gouvernement japonais de reconnaître ces crimes de guerre. Nous voulons des indemnités légales et des excuses formelles. Le Japon ne les a toujours pas offertes. Tokyo s'est contenté de créer un fonds de soutien aux anciennes femmes de réconfort asiatiques, mais c'est une fondation privée. Les victimes veulent que ce problème soit résolu par le gouvernement lui-même, qui est responsable des crimes cruels qui ont été commis. C'est le gouvernement japonais qui contrôlait l'armée.
Kil Wonok, 84 ans, manifeste elle aussi tous les mercredis. Elle avait 13 ans quand elle a été enrôlée de force dans une maison close de l'armée japonaise en Mandchourie. Son calvaire a duré des années.
Je pensais que mon histoire était honteuse, que je devais la cacher, mais un jour, par hasard, j'ai vu qu'il y avait des manifestations le mercredi. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose dont je devais avoir honte. Au contraire, c'est le gouvernement japonais qui doit avoir honte. Alors, pour faire connaître la vérité, j'ai raconté mon histoire.
En mars dernier, Kil Wonok a lancé une campagne de dons pour les victimes du séisme et du tsunami qui ont frappé le Japon. Son association a ainsi réuni 45 000 francs, mais Kil Wonok sait que cette action n'aura aucune influence sur la position de Tokyo.
Mon association a commencé ses manifestations il y a maintenant 20 ans. Cela fait 963 manifestations au total, tous les mercredis. Et pendant tout ce temps-là, on n'a jamais reçu une seule réponse des Japonais. Ils ne sont pourtant ni sourds ni muets. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer notre combat jusqu'à ce que nous obtenions une réponse.
Frédéric Ojardias, Radio Suisse Romande, à Séoul.
70 personnes ont été arrêtées après des pillages et des incendies samedi dans la banlieue de Tunis, malgré le couvre-feu en vigueur en Tunisie. Cette information a été donnée par le ministère tunisien de l'Intérieur, cité dans le quotidien La Presse. Le parcours de l'équipe de Suisse au championnat du monde en Slovaquie en hockey sur glace pourrait bien prendre fin aujourd'hui. Pour atteindre les quarts de finale, les Suisses sont condamnés à battre en fin d'après-midi les États-Unis, mais leur sort dépend d'abord d'une autre rencontre qui oppose en ce moment la France et la Norvège, une partie que vous suivez pour nous à l'Intévo.
Oui, la Suisse qui doit compter sur une victoire de la France dans le temps réglementaire, mais c'est plutôt mal, même très mal parti, puisque la Norvège s'impose 3-1 à l'issue du premier tiers-temps. La Norvège qui menait déjà 2-0 après 4 minutes. La France a certes inscrit le but de l'espoir à la 11e, espoir de courte durée, puisque Holtet a redonné deux longueurs d'avance à la Norvège. C'est dire, en résumé, les Français doivent désormais marquer 3 buts et ne plus encaisser, autant dire que la mission semble vraiment impossible. Et comme en 2001 et en 2009, la sélection helvétique manquera certainement les quarts de finale. L'échec sera cuisant pour les joueurs, pour le sélectionneur Sean Simpson, un an seulement après leur brillante 5e place aux mondiaux de Mannheim et Cologne.
Alain Thébault, qu'on retrouvera d'ailleurs dans nos prochains rendez-vous d'information. Il sera question de recomposition familiale ce soir à la Fondation Denon à Corsier-sur-Vevey. Le travail psychique de recomposition, un thème que vous allez aborder, Catherine Audibert. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychiatre, professeur à l'université Denis Diderot Paris 7. Vous venez de publier Œdipe et Narcisse en famille recomposée aux éditions Payot. La famille recomposée, ça peut présenter son lot de difficultés. Est-ce que dans un premier temps, ce qui est le plus difficile, c'est de trouver sa place, chacun avoir son identité et trouver sa place dans la famille?
Absolument, trouver sa place, parce que ça demande un certain temps. Le temps, effectivement, de penser déjà les blessures anciennes, et le temps de trouver le ton juste dans cette espèce de cacophonie qu'on peut connaître dans les débuts de la recomposition.
Trouver sa place, donc dire exister dans la famille, avoir son identité, pouvoir s'affirmer, c'est tout ça qui prend un peu du temps.
Ça prend du temps parce que ce que j'appelle le travail psychique de recomposition, c'est effectivement ce travail psychique que chacun a besoin de faire, et chacun de manière différente, parce que chacun a une place différente. Les beaux-parents ont à faire ce travail qui est très singulier, le parent, l'ex-conjoint, les enfants aussi, chacun a sa manière, et du coup, effectivement, ça demande du temps pour tout le monde, le temps de se comprendre soi-même, de comprendre les autres et de trouver effectivement sa place.
Vous parlez effectivement de travail psychique, de recomposition. Le mot travail est important, il faut travailler là-dessus.
Mais c'est une, enfin, j'emploie le mot travail dans le sens d'une dynamique. C'est quelque chose effectivement qui est sans cesse en mouvement, on va dire. Quand ça s'arrête, quand ça se fige, c'est là effectivement qu'on peut se poser la question d'une fixation psychopathologique de certains processus et essayer de remettre cette dynamique en route pour que ça aboutisse à un moment donné à ce que on se trouve bien et en équilibre dans cette famille.
Voilà, vous dites se trouver bien, justement créer des repères, c'est un petit peu le rôle des parents. Parfois, les parents eux-mêmes sont perdus et n'arrivent pas à donner peut-être des repères à leurs enfants. Ça crée un certain déséquilibre et c'est aussi ça qui rend des fois la recomposition difficile dans une famille.
Oui, bah d'ailleurs principalement parce que justement, c'est très difficile de savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas faire quand on est beau-parent, de savoir ce qu'on a le droit de laisser faire à son nouveau conjoint quand on est parent. Et effectivement, il y a une espèce de navigation à vue, je dirais, dans les familles recomposées, puisque il y a aucune, enfin en tous les cas en France, dans d'autres pays c'est un peu différent, mais il y a aucun cadre juridique, il y a aucune reconnaissance juridique de la place du beau-parent. Donc chacun s'arrange un petit peu à sa sauce dans chaque famille, mais finalement souvent c'est les émotions, les sentiments qui font loi, plutôt qu'un cadre qui permettrait aux enfants de pouvoir se structurer et de grandir effectivement dans quelque chose de beaucoup plus repérable.
Alors, quelle place aussi pour l'autorité, puisqu'un parent n'est pas forcément le parent des autres, des enfants de l'autre. Alors, comment se situe aussi par rapport à ça? Est-ce qu'on peut interdire un enfant qui n'est pas le sien? Est-ce que ça aussi, ça pose des problèmes?
Bah, oui, je crois
surtout
qu'il faut
pour les
quand
enfants.
Même, je crois qu'il faut quand même être clair sur cette question-là, puisque bon, l'autorité a souvent mauvaise presse, mais enfin, l'autorité, c'est quand même très structurant pour les enfants. C'est pas de l'autoritarisme ni du dressage. Et justement, le fait que chaque adulte de la famille, qu'il soit parent légitime ou pas, puisse être investi d'une certaine autorité, c'est structurant pour les enfants. Si vous voulez, ça l'est encore plus quand il y a des enfants du nouveau couple qui naissent. On peut pas faire une éducation à plusieurs vitesses dans une même famille, ce serait complètement aberrant. Donc les beaux-parents, effectivement, ont leur mot à dire en tant qu'adultes responsables dans le foyer dans lequel ils vivent et dans lequel ils élèvent des enfants qui sont pas forcément les leurs.
Un mot aussi sur l'échec de la recomposition familiale, puisqu'il y en a qui ne réussissent effectivement pas. Comment est-ce qu'on gère cet échec-là? Il faut le gérer en groupe, de façon personnelle, s'interroger éventuellement sur les raisons de cet échec?
Bah, je pense que les échecs de la recomposition familiale, ils sont pas très différents des échecs du premier couple. Finalement, ce qu'on voit, c'est que quelquefois, il se passe exactement la même chose dans le second couple qui s'était passé dans le premier couple. Donc quand il y a une répétition et qu'on s'interroge pas sur cette répétition-là, effectivement, ça peut durer assez longtemps.
Vous avez aussi écrit un livre, hein, en quelques mots sur la solitude. Est-ce que les personnes solitaires seraient bien dans une famille recomposée? C'est plutôt anecdotique que je vous pose cette question, mais c'est vrai que vous avez publié un ouvrage, L'incapacité d'être seul. Mmh. Alors, il faudrait mettre tous les gens qui sont incapables d'être seuls dans une famille recomposée, peut-être.
Alors, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout, parce que c'est une question qui est très paradoxale, justement. C'est pas parce qu'on est incapable d'être seul qu'on supporte la vie de famille recomposée.
Je vous remercie beaucoup, Catherine Audibert, psychologue, psychiatre, professeure à l'université Denis Diderot Paris 7. Vous venez donc de publier, on le rappelle, Oedipe et Narcisse en famille recomposée. C'est sorti aux éditions Payot. Et vous donnerez ce soir donc cette conférence sur le travail psychique de recomposition dès 20h15 à la Fondation de Nantes. On précise que l'entrée est libre. Catherine Audibert, bonne journée à vous. Merci.
Merci.
Un mot encore de la bourse à la mi-journée. L'indice SMI est en baisse 0,7% à 6481 points. Les prévisions météo de Carole Dubuis.
Cet après-midi, le thermomètre atteindra les 26 à 28 degrés en plaine. En montagne, un vent de secteur nord soufflera faiblement. L'isotherme du 0 degré se trouvera à 3300 mètres. Quelques voiles nuageux traverseront le ciel et des cumulus orneront les crêtes, mais le soleil nous tiendra compagnie jusqu'à ce soir. Un anticyclone maintiendra ce beau temps sur nos régions jusqu'à mercredi. Demain, la journée sera
assez ensoleillé en plaine. Le mercure se hissera à 26 degrés. En montagne, les nuages seront plus présents, ce qui pourrait donner naissance à des averses en fin de journée. Mercredi, les cumulus deviendront plus tenaces en montagne. En seconde partie de journée, des averses et des orages isolés séviront en altitude et pourraient également toucher la plaine. Jeudi, le ciel sera nuageux. Il sera escorté par des averses fréquentes sur le plateau, plus éparses en Valais. Les orages compléteront le paysage. Les températures s'abaisseront au fil des jours, annonçant une fin de semaine fraîche et pluvieuse.
La météo, offerte par les cafés La Semeuse et leur boutique en ligne, lasemeuse.ch.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Neuchâtel-Yverdon, des ralentissements se produisent entre la jonction d'Yverdon-Ouest et l'échangeur d'Yverdon en direction de Lausanne suite à un accident. À Fribourg, la route des Arsenaux est interdite à la circulation entre le passage du Cardinal et la route de l'Industrie en raison d'une intervention policière. Fin de ce journal. Merci à toute la rédaction, à l'assistance technique. Demain, nous recevrons François-Xavier Putella qui organise une conférence consacrée au suicide puisque chaque jour en Suisse, environ 3 personnes se donnent la mort et les tentatives sont très élevées en Suisse. Excellent après-midi sur la première, il est 13h.